Le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Dans les studios de Radio Centre-Ville à Montréal, aujourd'hui nous avons Robert Rivard.
Bonjour.
Jackie Lacourcière.
Bonjour.
Franck.
Salut.
Et moi-même, Nicolas Lehoux. Le thème de notre émission sera « Il n'arrive à un homme que ce qui lui ressemble ». Bon, pour moi, là, l'homme n'est pas un mammifère raisonnable, mais c'est un aimant qui attire à lui ce qui lui correspond.
Oui.
Et je pense que vous allez être d'accord avec moi.
Oui.
Attends une minute, là.
Ah!
Est-ce que, Nicolas, tu veux dire que si on accepte cette prémisse, cette condition-là, que la vie devient un miroir?
Exact, le monde est un miroir. Un miroir de tes pensées, ben oui. De ta conscience.
Donc, tu me dis, si je t'ai bien compris, que le dedans devient le dehors et vice-versa.
Ah!
Exactement. À force de... par la force de des choses.
Il a écouté mes capsules beauté.
Je l'admets, oui.
Bah, tu sais, il y a eu des documentaires sur le sujet dernièrement, la loi d'attraction. C'est un peu ce principe-là. Nous, on voudrait le pousser un peu plus loin.
Oui.
Parce qu'au premier niveau, oui, il arrive qu'un homme, que ce qui lui ressemble. Mais au deuxième niveau, à chaque instant, reçoit le salaire de ses pensées.
Ouais.
Ça veut dire que laissons faire le karma, laissons faire l'expiation, faire ces choses-là là, qui nous ont été imposées. Ça n'a aucun rapport, à mon avis. C'est des choses qu'on impose sur toi pour te faire sentir mal, pour t'obliger à travailler. Mais si tu es au deuxième niveau, puisqu'il n'y a pas de temps, il n'y a que le ici, maintenant, ce n'est pas quelque chose que tu as fait dans ton passé qui te ressemble, c'est tes pensées ici, maintenant.
C'est ça. Et c'est pour ça que c'est important de de réfléchir à ses propres pensées, d'être conscient de ses pensées, parce qu'à partir du moment qu'on réalise que nos pensées constituent notre propre réalité, bien attention, est-ce que si par exemple j'entretiens des pensées d'effroi, là, de crainte, d'horreur, où il y a vraiment quelque chose là, qui m'obsède, il y a bien des chances que je le constitue dans ma propre réalité. Mais ça, là, en tout cas pour nous, là, ça semble très simple, là, mais je pense que pour beaucoup de personnes, ça peut être assez effrayant d'entendre de tels propos. Parce qu'à ce moment-là, on en a déjà discuté d'ailleurs, hein, la personne va dire oui, mais même les accidents, les grosses épreuves là, que les gens vont se donner, là, comme on le sait, de par leur propre vibration, c'est difficile de se dire, ben oui, mais moi, il m'est arrivé telle affaire, donc c'est de ma faute. Ben écoutez, c'est pas personne mérite d'être battu, volé, violé. Hein, personne mérite ça.
Mm-hmm.
Mais c'est pour ça que c'est important, je pense, qu'on en parle de plus en plus, de comprendre ce principe-là.
Mm-hmm.
Parce qu'à ce moment-là, on va être plus aux aguets par rapport à nos propres pensées. Et là, on va être moins en danger, justement.
Mm-hmm. Ça demande une reconnaissance de notre... C'est l'aspect de responsabilité qui est pointilleux. Hein?
Oui.
On ne veut pas dire ou on ne veut pas prendre responsabilité pour les événements négatifs qui arrivent dans notre vie. Bien sûr, en toute bonne conscience, on voudrait pas être... On se dit, j'ai pas causé ça, c'est pas moi qui... Je ne voulais pas que cela arrive, cet événement-là malheureux, etc., etc.
C'est toujours plus choquant, parce que si c'est négatif, tu dis, ben si ça me ressemble, pourquoi?
C'est ça. Mais
moi, je préfère vivre dans la conscience, puis me poser réellement la question, pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi j'ai toujours ce type de femme dans ma vie? Pourquoi j'ai toujours ce type de client? Pourquoi j'ai toujours ce type de situation?
Parce que les patterns vont se répéter tant et aussi longtemps que tu n'auras pas répondu justement à la question.
Ouais.
C'est ça?
Mm-hmm.
Oui.
Il paraît en plus que maintenant, étant dans une nouvelle, on va dire dans une nouvelle étape, hein, l'après le fait du fameux 2012, là, ce fameux fin des temps, ou c'est plutôt cette fameuse fin d'une époque, ce qui se passe à partir de maintenant, c'est qu'on est, a priori, hein, selon certains en tout cas, des vrais créateurs, dans le sens où on s'est libéré de notre poids du passé, autrement dit de notre petite carriole ou de notre remords dans lequel il y a toutes les... tous les patterns, toutes les choses qu'on a traînées plus ou moins avec nous. Et là, on se libère de ça et donc nos pensées prennent davantage de force. Et comme elles prennent davantage de force, elles ont encore d'autant plus de raisons de se manifester dans le, bah dans le réel, dans le quotidien, quoi. Donc c'est super intéressant, puis c'est à la fois enthousiasmant, puis peut-être aussi d'un autre côté un peu flippant, parce que ça veut dire que bah, si tu sèmes des pensées destructrices, bah, tu récoltes en conséquence. Donc autant y aller dès le départ, oui, avec des pensées bénéfiques pour toi, et puis bah, si c'est bon pour toi, ça risque d'être bon pour les autres, quoi.
Justement, oui, j'ai une petite anecdote à ce sujet. C'était une femme qui vivait sur une rue très passante, mm-hmm, puis elle disait toujours à son enfant qu'il allait se faire tuer si tu sais, il faisait pas attention. Puis un jour, c'est elle qui est sortie trop vite, puis elle s'est fait frapper. Puis oui, c'est comme si l'enfant lui avait renvoyé ses propres vibrations. Oui. Et puis pourtant, c'est... Il faut faire attention aux choses qu'on dit aux autres. Et si on les condamne ou si on les maudit, tu sais, on peut bénir, mais on peut maudire aussi. Alors, ça peut nous revenir très rapidement.
Oui, la condamnation, c'est vrai, c'est important ce que tu dis, hein, parce que c'est facile de condamner les autres et tout ça. Mais ce que nous condamnons, nous condamne toujours en retour. Hein, parce que, ouais, comme tu disais tantôt, le monde est le miroir de nos pensées. Alors, si, c'est comme un boomerang, hein, la vie, c'est comme un boomerang. Hein, je projette quelque chose, je vais le recevoir en plein
oui,
visage.
Oui, ça peut
là,
des fois être très, ouais, très choquant. Moi, dernièrement, j'ai fait un rêve où j'avais un homme qui tendait un piège à quelqu'un. Là, il avait mis du beurre sur le plancher, il préparait un mauvais coup. Mm-hmm. Et je l'ai maudit. Et c'est pas mon habitude, ouais, puis c'était un rêve. Ouais. Et puis j'étais très... cette personne s'est avancée vers moi. C'était au moment où il y avait cet ouragan, le Frankenstorm. Moi, j'avais appris que l'ouragan était fait par des humains, qui était justement, c'était préparé pour les élections et tout. Et c'était très choquant et j'avais maudit. Et quelques jours après, mon chat s'est fait frapper.
Oh, oui.
Et je sentais quelque chose de terrible à l'arrivée, parce qu'on ne peut pas maudire, oui, sans que ça nous revienne, oui, même en rêve.
Oui.
Et c'est pour ça aussi qu'il faut être extrêmement vigilant par rapport aux infos qui sont données, au recul qu'on peut avoir par rapport à ces infos, notamment quand il s'agit par exemple de dictateurs qui, à juste titre, on pourrait penser que, bah, je pense par exemple à Kadhafi il n'y a pas très longtemps, là, où certains se réjouissaient effectivement de l'assassinat, de la mort de Kadhafi. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est pas de prendre parti que ce soit bien ou que ce soit pas bien, c'est que par rapport à un personnage comme celui-là, d'une part, le gars, il n'a pas livré tous ses secrets qui auraient pu mettre en cause certains chefs d'État et autres, donc le travail de justice n'a pas été fait dans l'ici et maintenant. Et puis, d'autre part, comme tu le disais tout à l'heure, ce que tu souhaites hâtivement pour d'autres pourrait bien te revenir. Et donc... encore une fois, de la vigilance par rapport à ça, même si ça peut paraître bien fondé que ah bah, le dictateur il s'est fait tuer, donc de toute façon c'était un sale type, donc tant mieux pour lui, ouais, sauf qu'il a emporté des secrets avec lui, sauf que ça aurait peut-être pu avoir des conséquences de la révélation de ses secrets sur la politique mondiale, et donc de ce fait, bah, de pas trop se réjouir et de prendre un petit peu aussi de recul par rapport aux sentiments là, qui pourraient venir très très facilement et des condamnations qui se font tout aussi hâtivement.
Donc si on revient à ce qu'on parlait tantôt quand on disait que le dedans est comme le dehors et tout ça, ça amène à un autre niveau pour ceux qui acceptent. Puis il faut encore là revenir que, tu sais, il y a deux camps ici, là, hein, ceux qui croient qu'il y a un univers externe qui n'ont aucun contrôle, et mm-hmm, qui n'ont aucune influence, oui, et qui n'ont pas rapport à eux, là,
oui, oui,
pendant que les autres sont chez eux puis que la porte est fermée.
Ben, oui, les esprits matérialistes, en général,
il y a,
oui,
il y a ça.
Comme
et
ça,
puis, pour ceux qui sont plus à l'écoute du message qu'on parle et, oui, qui comprennent la subtilité,
oui,
ça implique aussi que les apparences, mm-hmm, ne sont pas trompeuses,
c'est ça.
N'est-ce pas? Parce c'est que ça, c'est encore un effet de la réflexion,
oui,
de la,
oui,
de,
oui, oui,
du miroir.
C'est ça, c'est ça.
À condition, comme le précise souvent Nicolas, d'y aller avec différents niveaux. Parce que si tu prends premier niveau, tu peux, si on avait vu par exemple Jésus dans son apparence telle qu'il était, ou en tout cas telle qu'il a été décrit, on l'aurait pris pour un itinérant et on l'aurait embarqué s'il vivait aujourd'hui direct au poste de police.
Oui, ouais.
Et ça n'empêche pas que, vivant ou pas vivant, bref, le débat n'est pas là, que ses apparences étaient, si on se fiait à ses justes apparences, voilà. Moi, ça m'est arrivé souvent de discuter des fois comme ça avec des gens qui ont une apparence qu'on l'on pourrait qualifier de banal. Oui. Et quand tu discutes avec eux, ils sont absolument passionnants. Ils ont des, ils font des choses extraordinaires, des rencontres, ça peut être encore des artistes ou des philosophes. Ou, et bah, quand tu les vois, ils ne payent pas de mine. Mais si tu t'arrêtes juste à cette première, oui, à cette première vision, mmh, et que tu t'arrêtes à ça, voilà. Donc, il y a...
Oui, oui, oui.
Y aller au-delà aussi, oui, encore de...
Oui, comme
sauf
certains.
Que,
oui.
Sauf que finalement, si tu attires toujours ce type de personnes, c'est quand ça devient
une répétition
que ouais, là, ça peut... Tu penses que ça porte à réflexion, par exemple. J'attire toujours le même type de femme. Pourtant, j'ai eu des femmes, une femme de 45 ans, des femmes dans la trentaine, des femmes de même de 18-19 ans. Mais il y a toujours un pattern en arrière. Et comme... Puis ça m'amène beaucoup à réfléchir là, depuis très longtemps. Là. Et finalement, quand t'en as une qui n'est pas dans le moule, ça te pose une réflexion aussi assez profonde. Mais c'est toujours cette répétition. On dirait que c'est l'archétype de la femme qui revient. Et puis là où l'archétype du client ou l'archétype de la job. Il y a toujours ce... Regardez autour de vous. Puis demandez-vous si ça vous ressemble vraiment. On va vous laisser pour l'instant avec une chanson de Yann Tiersen qui s'appelle « Les jours heureux ». Et on revient après la pause avec ce thème « Il n'arrive à un homme que ce qui lui ressemble ». Retour à propos sur le bonheur. Le thème de notre émission est « Il n'arrive à un homme que ce qui lui ressemble ». Faites attention, les autres s'appliquent à ressembler à ce que l'on pense d'eux.
Oui, donc, ça c'est vrai.
Ça, moi, je l'ai remarqué. Et c'est un grand défi, tu sais, des fois, il y a quelqu'un qui nous énerve, à la limite, on lui veut du mal, mais je crois que la sagesse, c'est de s'appliquer à le voir tel qu'on aimerait qu'il soit.
Oui.
Et c'est pas toujours facile.
Oui. D'ailleurs, je crois que je suis pas certaine, là, mais je crois que c'est Ramakrishna, j'avais déjà lu ça il y a très, très, très longtemps. Il disait, traitez les autres comme vous voudriez qu'ils soient. Non, c'est pas ça.
On assume nos paroles.
Oui, oui, oui. Attends. En tout cas, je vais y revenir. Mais ça voulait dire à peu près ça.
De projeter l'image que tu veux.
Oui, c'est que l'image que tu te fais de quelqu'un d'autre, oui. OK, si par exemple, tu dis, ah, cette personne-là, je ne peux pas la sentir, là, c'est qu'à toutes les fois que tu vas être en présence d'elle, ou même si tu n'es pas en présence d'elle, c'est comme si la personne le ressent, et là, va se faire ta propre ennemie. Alors... Oui, c'est ça. C'était traiter les autres comme vous vouliez, comme vous voudriez qu'ils soient finalement.
Okay.
Alors,
c'est sage.
Oui, c'est sage. Mmh. Et puis aussi, on a déjà parlé de la bénédiction. Dans oui. ces cas-là, parce qu'il y a des personnes vraiment, c'est plus difficile. Puis on se dit, on veut pas nécessairement. Une fois qu'on a compris ce principe-là, ben il s'agit peut-être de se bénir par rapport à elle, puis de les bénir aussi. Dire cette personne-là, ça m'est très difficile. Toutes les fois, j'entre en contact avec elle, et puis je veux pas être affectée par ça. Alors je vais la bénir. Et puis comme puis graduellement, effectivement, notre réflexion, notre pensée change par rapport à cette personne-là.
Puis il y a aussi le fait d'accepter la responsabilité que l'on crée la situation. Par exemple, il y a des personnes qu'on a, par exemple, moi il y a des personnes des fois que je vais rencontrer, enfin pas forcément que je vais rencontrer, mais des personnages publics qui mènent des politiques qui sont totalement en désaccord avec ce que je peux penser ou qui sont complètement à l'encontre du domaine dans lequel je vais travailler. Et puis bah Harper, par exemple, pour ne pas le citer. Et je trouve que c'est un bon moyen d'entraînement, c'est-à-dire d'arriver à tenter de prendre de la distance, c'est-à-dire bah, arrêter de maudire, dire oh, c'est vraiment c'est n'importe quoi, quelle connerie, enfin bref. Et puis de se dire, bah, écoute, c'est ton point de vue, c'est ta politique. Je partage pas ça du tout, et puis je préfère me polariser sur des gens qui explorent ou qui mettent en œuvre d'autres paradigmes, et puis de se concentrer là-dessus, ma foi, ça permet de libérer son mental de nuages nauséabonds.
Oui.
Mais ce que je voulais dire aussi, c'était par rapport à ça, c'est le Ho'oponopono, par rapport à la responsabilité. Et je trouve que c'est un moyen assez excellent.
Oui.
Par exemple, parce qu'on a toujours l'impression que bah, y a un accident, mais c'est pas nous, c'est à côté, là-bas. Et le fait, de, par exemple, de voir un accident et de faire Ho'oponopono, c'est-à-dire de prendre la responsabilité, de dire, bah, voilà, c'est en face de moi, et donc, quelque part, bah, je participe ou je participe pas, mais en tout cas, je fais partie de cette réalité-là,
ouais.
et de l'accepter en tant que telle. Mm-hmm. Et donc, du coup, bah, ça... À la fois, ça te responsabilise, et puis, et puis de l'autre, aussi paradoxal que ça puisse paraître, ça t'allège.
Oui, oui.
Et donc, c'est deux paradoxes, c'est-à-dire de se sentir concerné ou impliqué, et puis dire, bah oui, c'est comme ça, je fais partie de ce tout. Ça permet, je trouve, une plus grande liberté.
C'est plus global, hein.
C'est une plus grande liberté, ouais. Et d'une certaine façon... Peut-être encore un autre paradoxe qui revient au bonheur, un peu plus de joie dans l'existence de la vie de tous les jours. Mmh. C'est une espèce de mécanique, quoi, de pirouette.
Ouais, je pense que ça peut dépendre de la philosophie personnelle. Moi, j'ai plutôt tendance à faire le contraire. Je ne veux pas être responsable du malheur que les autres se donnent. C'est ce dont je parlais tantôt, ce fameux karma. Moi, je l'ai foutu à la poubelle, le karma. J'ai fait un travail sur moi-même pendant des années. Beaucoup de lectures, beaucoup d'expériences mystiques qui m'ont finalement extirpé. Là, parce que je crois que la vraie liberté, c'est de jeter à la poubelle. Je ne crois même pas que ça m'appartient. Je crois que quand on vient dans un corps physique, on a des mémoires superficielles qui nous sont ajoutées pour nous faire sentir bien, mais qui, à la limite, ne sont pas les nôtres. Donc, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce qui me ressemble? Je me suis beaucoup posé la question. Moi, dans mon travail de peinture, j'ai fait une série de 12 peintures là, hyper réalistes des gens qui étaient les plus proches de moi. Je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à me voir personnellement, mais que c'était les autres autour de moi qui étaient un miroir. Mm-hmm. Donc, je les ai mis en rond autour mm-hmm. de moi. Je les ai peints avec le visage du Brahma, c'est-à-dire deux visages sur le côté, un visage de face. Donc, je voulais voir le divin en chacun mm-hmm. d'eux, puisqu'ils étaient les plus proches de moi.
Mm-hmm.
Et puis, ce processus m'a pris un an à les faire hyper réalistes. Et puis, en bout de ligne, j'ai fini par me trouver, parce que j'ai réussi en les peignant, à les ôter de moi, à les extirper. J'ai compris que, bon, ça, c'est mon père, par exemple, ma mère, mes sœurs. Qu'est-ce qu'elles ajoutent sur moi? Bon, je ne veux pas. Je les aime, je veux les avoir avec moi dans ma vie, mais je ne veux pas prendre leur karma. Je ne veux pas prendre... Là, je ne veux pas ressembler à eux. Je veux me ressembler.
Oui.
Dans ce dont je parlais, ce n'était pas de prendre le karma. C'est juste de...
Oui, mais la technique Ho'oponopono, j'ai vu en diagonale, mais il y a cet aspect qui te demande de t'excuser... Des choses comme ça, hein?
Moi, t'es pas obligé.
Tu t'excuses. Mais moi, j'aime pas m'excuser. Je suis un guerrier. Un guerrier ne fait pas d'erreur.
Et effectivement, oui. Ben, c'est-à-dire qu'à partir du moment que tu commences à t'excuser, c'est que c'est comme tu démontres de l'humilité. Puis, hein, c'est comme si tu niais finalement la perfection que tu es. Parce que même nos erreurs, je pense, peuvent être rentables, justement, dans la mesure. Tu sais, on pense se tromper des fois. Puis
c'est de l'expérience,
au
moins. Mais,
oui, c'est de l'expérience. Oui. Et puis, bon, au moins, la prochaine fois, tu sais peut-être que tu ne le feras pas. Mm-hmm. Ou c'est souvent que ben, les grandes découvertes, même, hein, ont été faites sur la base, justement, de ça ne devait pas être des erreurs, mais c'était des erreurs. Puis, finalement, ça amenait à quelque chose de prodigieux. Mm-hmm. Alors,
comme le post-it, par exemple.
Comme le quoi?
Le post-it.
Oui.
La colle qu'il y a sur les post-it, c'est une, paraît-il, enfin, selon la légende, c'est une erreur qui a fait que le gars s'est dit, ah bah tiens, parce qu'il cherchait un truc, et puis en fait, ça collait plus ou moins, mais tu pouvais le... Et donc, du coup, c'est devenu le post-it.
C'est ça.
Mais pour revenir à ce que tu dis, c'est un peu comme la mécanique du pardon qui peut être... je me fais l'avocat du diable
c'est
là,
bon,
ce soir.
C'est bon, on en parle, oui.
Et c'est comme la technique du pardon, c'est pas parce que tu pardonnes à quelqu'un par exemple, quelqu'un qui t'a fait du mal, je sais pas moi, dans un contexte professionnel ou autre, ou dans ta vie privée, c'est pas parce que tu vas le fait de le pardonner, c'est pas le pardon dans le sens où bah écoute, t'as fait ça et puis voilà et puis bah je te pardonne quoi, genre passif. Non, c'est ok, c'est pas parce que je te pardonne que je t'excuse d'une certaine façon ou l'inverse.
Oui,
selon, c'est-à-dire que ok, t'as fait une connerie, c'est quand même quelque chose qui m'a porté préjudice, qui m'a fait très mal d'un point de vue émotionnel et tout ça, mais je ne veux plus être dépendant de la blessure que ça m'apporte. Et la mécanique du pardon que l'on peut mettre dans ce contexte-là, alors je sais que c'est un peu dur à appréhender comme truc, je me fais l'avocat du diable ce soir, tant pis. Et donc ça permet... Ça dépend de chacun, enfin en tout cas pour moi ça marche, ça permet une certaine distance par rapport à l'objet. C'est pas pour ça qu'encore une fois c'est pas parce que tu m'as fait du mal que je t'excuse pour tout, mais ça me permet de prendre une distance et puis de me détacher, de couper cette espèce de cordon ombilical ou d'alimenter cette espèce de nuage là de rancœur et de sentiments négatifs. Alors après, à chacun sa façon de façon de faire et sa façon de procéder, mais ça peut être un moyen pris encore à un autre degré que le premier que l'on peut considérer. Qui fait que moi, je trouve que ça a toute sa raison d'être, quoi.
Mais c'est parce que là, tu parles du pardon. C'est que, regardez, le titre, le thème, notre thème, là, c'est « Il n'arrive à un homme que ce qui lui ressemble ». Ça veut dire que si quelqu'un t'a fait du mal... OK, et que tu dis oui, je vais lui, ça c'est très chrétien, ça, je vais lui demander pardon. Ça veut dire que tu ne comprends pas le principe qu'on est en train d'élaborer en ce moment. Parce que si je suis responsable de ce qui m'arrive, de par mes vibrations, de par mes pensées, et si un autre, par exemple, va m'attaquer ou va me faire du mal au point que si j'étais chrétien, j'aurais tendance à lui pardonner, c'est parce que je ne comprends pas que cette personne-là a agi en fonction des vibrations que j'émets. Je n'ai rien à lui pardonner.
Absolument.
C'est dans ce sens-là que tu le sais.
À ce sens que ma philosophie personnelle, c'est que je ne pardonne pas, un peu comme Anonymous.
Non, on comprend.
Par contre, je comprends.
Voilà, c'est ça, comprendre la personne.
Lorsqu'on donne de la compréhension à quelqu'un, je crois qu'on lui fait un cadeau. On lui dit, je comprends, tu sais, je ne te pardonne pas, tu étais vraiment stupide, mais...
Oui.
Je te comprends.
Donc, il n'y aurait pas une valeur de délibérément, de faire une session délibérée de visualisation, de méditation ou de quoi que ce soit qui fait en sorte qu'il t'aide à façonner, comme on dit. C'est, se connaître, c'est bien, mais se créer, s'inventer, c'est mieux.
Oui,
donc, inventer notre réalité, c'est dans ce sens-là que je trouve, il me semble que ce serait important de mettre d'énergie dans cette direction-là.
Oui. Bien, c'est sur cette pensée qu'on va terminer l'émission aujourd'hui.
Mais bon.
La pensée de notre ami Robert. Alors, on vous laisse avec une chanson qui s'appelle « Heureux d'un printemps ». Par contre, c'est de Loco Locas. C'est une version retouchée de la chanson de Paul Cliché. Et on vous invite à venir sur notre site Internet, écouter nos podcasts et les nouvelles capsules « Beauté » de Jackie. Et... On vous dit à bientôt et on vous laisse sur cette chanson. Les locaux.
Heureux d'un printemps qui me chauffe le coin. Triste d'avoir manqué encore un hiver. Je peux pas faire autrement, ça me fait de la peine. On vit rien qu'au printemps, mais le printemps dure pas longtemps.
On n'est pas maître dans nos maisons.
Assis sur le bord de mon trou, je me creuse la tête.
Je pense au bonheur des gens.
Je sais bien que ça va pas durer.
Et ça a de l'air que ça prend beaucoup de sous pour faire la fête.
À qui appartient le beau temps?
L'hiver, l'été durant.
Avril d'Ali, Vrali, de l'homme. Hop de la l'homme, hop de la l'homme. Avril d'Ali, Vrali, de l'homme. Hop de la l'homme, hop de la l'homme.
Yo, l'été, c'est tellement bon quand t'as la chance
d'avoir assez d'argent
pour voyager sans t'inquiéter.
Pour le fils de patron, ben c'est les vacances.
Mais pour la fille du restaurant, c'est les sueurs pis les clients.
On dit que l'hiver est blanc comme un nuage, mais ça, évidemment, c'est dans le chalet près du foyer.
Dans le fond, c'est salissant au prix qui est chauffage.
Y'a pas pire moment de l'année quand t'es pogné pour t'endetter.
Avril d'Ali, de l'homme, hop de la l'homme, hop de la l'homme. Avril d'Ali, de l'homme, hop de la l'homme, hop de la l'homme.
Imaginez le printemps dans un Québec indépendant. Up to the ladder, up to the ladder.